Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans le débat du Club des Idées, comment lutter contre les fake news et particulièrement une technologie qui inquiète beaucoup, les deepfakes. Ce sont, vous savez, ces vidéos truquées qui peuvent faire dire à peu près n'importe quoi à n'importe qui. On en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, chez les humoristes aussi. Alors ça peut faire sourire quand elles sont justement humoristiques, mais ça donne aussi des sueurs froides aux services de renseignement, car on pourrait demain manipuler les foules, manipuler les gens, manipuler les opinions et pourquoi pas les élections avec un tel procédé. Alors comment démêler le vrai du faux? Peut-on reconnaître ces deepfakes? Et comment aussi travaillent les services de l'État face à cette nouvelle menace? On en parle donc ce soir avec nos invités. Bonsoir Arnold Zéphir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur et développeur d'intelligence artificielle au sein de Prévision IO et co-auteur de Intelligence artificielle, miroir de nos vies, sorti aux éditions Delcourt. On en parle également avec Jérôme Bilois. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en cybersécurité au cabinet Wavestone. On en parle également avec Gérald Holubovitch. Bonsoir, vous êtes spécialiste deepfake, auteur d'un blog notamment sur la question qui s'appelle Journalisme Design. Alors, pour commencer, je voudrais partager avec vous, et puis peut-être nos auditeurs ils vont voir ça après sur Internet, parce que c'est bluffant de réalité. On a été absolument stupéfaits dans l'équipe avec mes collègues d'Europe Soir. C'est un discours, une allocution d'Emmanuel Macron, sauf que, évidemment, ça n'est pas Emmanuel Macron. On écoute.
Françaises et Français, mes chers compatriotes, la semaine dernière, je m'adressais à vous pour évoquer la crise que traverse notre pays. La guerre était alors une idée lointaine. Aujourd'hui, elle est réalité.
Voilà, et on s'est amusé à montrer cette vidéo à des passants dans la rue. C'est notre journaliste Diane Berger qui s'en est occupée. Écoutez par exemple la réaction de cette jeune femme, Alexandra.
Les deux composantes essentielles de la force de frappe française, aéroportée et sous-marine, ont été mises en branle.
Oui, franchement, c'est très réaliste. On dirait vraiment que c'est le président qui parle et j'ai pas vu de différence ni avec ses expressions ni avec sa voix. Si on n'est pas tout à fait au courant, etc., on peut se laisser prendre. Ouais.
Jérôme Bilois, comment peut-on expliquer et définir ce qu'est une deepfake ?
Alors, une deepfake, c'est ce qu'on appelle un hyper-trucage en français. C'est-à-dire que ça va reprendre les technologies qu'on connaissait dans le cinéma depuis des années. On sait qu'on est capable de créer des environnements complètement nouveaux, de faire parler des gens qui, des fois, étaient même décédés quand il manquait des morceaux de films. Et cette technologie de recréation d'un visage, de recréation d'une voix, en se basant sur de l'existant, maintenant elle est accessible, je dirais, au plus grand nombre. Il y a des logiciels qui existent sur Internet qu'on peut utiliser et qui, finalement, on est face à une explosion de ce phénomène.
Oui, en somme, Arnold Zéphir, c'est greffer numériquement le visage d'une personne sur une autre.
C'est ça, oui, c'est tout à fait. Donc, on utilise la puissance des intelligences artificielles qui vont être capables de transposer les features qu'on va avoir en commun d'un visage à l'autre. Et à partir d'enregistrements de mon visage, aller prendre un autre visage et le faire correspondre, pas point par point exactement, comme on a pu le faire dans le passé, mais plutôt feature par feature, une feature étant l'œil, l'arête du nez, la taille des oreilles.
Alors on est en ligne justement avec la personne qui a notamment réalisé la vidéo qu'on vient d'écouter du président de la République, l'allocution d'Emmanuel Macron, c'est Yanis. Bonsoir Yanis.
Bonsoir.
Vous êtes... Deepfaker de Nicolas Canteloup, évidemment, que chacun connaît, et vous avez monté l'entreprise et la chaîne YouTube French Faker. Comment vous avez réussi à réaliser cette deepfake, cette vidéo truquée du président de la République ?
Ben, en fait, c'était relativement assez simple parce que du coup, c'est mon métier maintenant. Mais sinon, c'était à partir d'un algorithme open source que j'ai modifié moi-même et avec mes équipes.
Oui.
Et ensuite, je suis tombé sur cette séquence qui m'a fait particulièrement rire, qui n'était pas deepfakée. Je me suis dit qu'un deepfake se ferait aisément là-dessus. Et en fait, à partir de cette séquence, j'ai cherché aussi des images d'Emmanuel Macron, des vidéos pour avoir en fait toute la palette d'émotions d'Emmanuel Macron et aussi toutes les features, tout ce que disait tout à l'heure l'invité, pour avoir toutes les aspérités du visage. Et ensuite, l'algorithme, lui, va détecter le visage d'Emmanuel Macron et aussi le visage de l'acteur pour ensuite l'apprendre et faire une sorte de moyenne et qui va donner ce résultat final.
Alors ça, c'est pour la fabrication technique. Et ça prend combien de temps à faire une vidéo comme celle-ci ?
Alors, tout dépend de la qualité, mais pour celle-ci, ça va vous prendre... Moi, ça m'a pris en tout cas 4 jours.
4 jours. 4 jours. Et donc, c'est ce que vous faites régulièrement avec Nicolas Canteloup pour le segment qu'il a tous les soirs à l'antenne de TF1.
C'est ça, tout à fait.
Oui.
Sauf que là, c'est pour une qualité, je dirais, plus humoristique.
Oui, bien
Donc,
sûr.
on peut avoir plus de défauts. Il n'y a pas de problème. Donc
Ça
là,
fait
j'en fais 7 par jour.
peur, non, Yanis, quand on a entre les mains une technologie comme celle-ci et qu'on peut à peu près faire dire n'importe quoi à n'importe qui?
Tout à fait, ça fait extrêmement peur. Et c'est pour ça que je communique très peu sur les outils que j'utilise ou sur la manière de procéder, etc. Parce que je ne veux pas être responsable des mauvaises utilisations qu'il pourrait avoir
Oui,
derrière.
vous avez raison. Bien, merci pour ce témoignage. Merci pour nous avoir fait partager votre expérience et saluer pour nous d'ailleurs notre ami Nicolas Canteloup qu'on retrouve évidemment tous les matins dans la matinale de Mathieu Béliard. Jérôme Bilois, c'est vrai qu'on trouve des logiciels un peu partout sur Internet maintenant pour fabriquer ces deepfakes?
Oui, on en trouve directement sur Internet, on en trouve dans nos téléphones, on peut en mettre dans nos téléphones, avec des niveaux de qualité qui sont très variables. Aujourd'hui, pour faire quelque chose de bien, comme on l'entendait à l'instant, il faut quand même plusieurs jours. Ça peut coûter beaucoup d'argent aussi si on veut vraiment aller très loin. Par contre, pour faire du niveau entrée de gamme, qui peut tromper parce que on va le regarder en petit sur son téléphone ou on va finalement le voir en voir un tout petit extrait, c'est plus si cher que ça. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur des technologies qui progressent très vite. Et donc, ces moyens-là vont être de plus en plus accessibles à tout un chacun, voire au grand public, dans les années qui viennent.
Ce qui est assez fou, c'est la manière dont ça progresse et ça se démocratise, hein. Je regardais les chiffres entre début 2019 et aujourd'hui. En 2 ans, en somme, selon l'hébergeur Suncity, le nombre de deepfakes est passé de 7 000 à 85 000 sur les réseaux sociaux, ce qui est évidemment assez inquiétant. Et ce nombre de deepfakes produits doublerait tous les 6 mois. On en parle justement parce que maintenant qu'on a posé les bases du débat et que chacun a à peu près compris de quoi il s'agissait, on va parler de l'enjeu démocratique qu'il y a derrière. C'est important, à tout de suite. Et ce soir, vous l'avez compris, 19h30 passé d'une minute, dans le débat du Club des Idées, on continue de parler de la lutte contre les deepfakes, ces vidéos qui permettent de tronquer un visage, de changer un visage et surtout de changer ce que dit le personnage de cette vidéo. Alors des vidéos deepfakes célèbres, il y en a un certain nombre. Il y en a une par exemple de Tom Cruise qui fait beaucoup parler en ce moment sur TikTok, rien de méchant, mais on le voit faire du golf, des tours de magie, sauf qu'évidemment ça n'est pas lui. Idem pour le président Obama qui face caméra traite son successeur Donald Trump de deep shit, ce qui veut dire littéralement sombre, sauf que là encore, ça n'est pas lui et c'est troublant de réalisme, hein, cette vidéo. Où il y a encore cette vidéo qui circule sur Instagram en 2019 de Mark Zuckerberg, vous savez, le patron de Facebook, qui tient des propos inquiétants sur nos données personnelles. La vidéo lui fait dire ceci: quiconque contrôle les données contrôle le futur, sauf que là aussi, ça n'est pas lui. Alors tout ça, ça fait peur, Jérôme Bilois. Vous êtes expert en cybersécurité au cabinet Wavestone. Ça fait peur car ça peut changer la perception de l'opinion publique et ça peut jouer sur nos démocraties.
Tout à fait, parce qu'on le sait aujourd'hui, la force d'une vidéo et sa viralité quand elle est reprise sur les réseaux sociaux, quand elle est reprise dans les médias, il y a un vrai enjeu finalement à savoir cultiver, je dirais, d'une part, sa capacité à détecter ce genre de choses, mais aussi à développer son esprit critique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça peut aller très très vite et on peut avoir des effets extrêmement rapides quand ce type de vidéo va d'un seul coup circuler.
Alors, Gérald Holubovitch est toujours avec nous, spécialiste deepfake. Il y a le Congrès américain, je crois, qui s'est intéressé lors de récentes auditions à cette problématique des deepfakes, hein, qui inquiète beaucoup les gouvernements partout, en Europe, chez nous en France, mais aux États-Unis aussi également. Et il y avait une professeure de droit qui était auditionnée à l'Université de Boston qui disait ceci: imaginez la nuit précédant l'entrée en bourse, par exemple, d'une entreprise, une vidéo deepfake laisse apparaître le PDG en train de commettre un crime. Si la vidéo était largement diffusée, le prix de l'action pourrait s'effondrer. Et donc, évidemment, ça a un impact là sur la vie réelle. C'est ça qui nous guette avec ces deepfake vidéos, Gérald Holubovitch?
Oui, alors effectivement, Daniel Citron évoque un scénario un peu catastrophe dans son audition. Je pense qu'on peut aussi un peu relativiser le danger que peuvent éventuellement soulever les deepfakes. Il faut voir que effectivement la voix et l'audio, enfin la vidéo est importante, mais la voix aussi est très importante. Et sans ça, le deepfake est beaucoup moins convaincant. On a eu des rumeurs de détournement de fonds à ce sujet-là qui ont eu, enfin qui ne sont pas réellement prouvées. Et en fait, on se retrouve avec des situations, des vidéos qui ne qui ne sont pas forcément des deepfakes, qui peuvent être des vidéos manipulées avec des méthodes traditionnelles, mais qui trompent quand même leur...
Oui, mais c'est vrai, quand on voit l'impact de certaines fake news, hein, qui sont pourtant, pardonnez-moi l'expression, mais un peu grosses pour les avaler telles quelles, on imagine l'impact que peut avoir une vidéo truquée si elle est relativement bien faite, si elle est faite par un imitateur, vous parlez de la voix, ou si des morceaux de voix sont repris pour former un seul et même discours, ça peut quand même sacrément perturber la marche du monde d'une certaine manière.
Alors évidemment, il existe un danger, hein, mais encore une fois, je relativise, c'est-à-dire qu'il déjà il y a la presse qui est là pour aussi jouer un rôle de d'information,
de
modérateur, de fact-checking, hein, et elle est particulièrement attentive, en tout cas aux États-Unis, en France également, en Europe. Donc il faut aussi compter sur les journalistes pour travailler ces sujets-là. Par ailleurs, ensuite, il y a aussi quand même tout un contexte. C'est pas parce que la vidéo va être diffusée qu'elle va être particulièrement prise comme ça pour argent comptant. Mais effectivement, il y a quand même un risque in fine que certaines personnes puissent tomber dans le panneau.
En tout cas, vous savez, dans l'état-major de l'Élysée, à l'exécutif, on regarde ça quand même de près en se disant, tiens, en 2022, il ne faut pas que quelqu'un essaye de perturber la marge de la campagne électorale et que ça entache évidemment la sincérité du scrutin. On va continuer d'en parler. Je voudrais simplement vous faire réagir, tiens, à une première question qui nous vient d'Antoine.
Antoine, j'ai 42 ans. On peut se demander légitimement qui est à la base de ces vidéos. Pourquoi, dans quel but, si c'est fait pour soutirer de l'argent ou, j'imagine, des guerres entre les États.
Voilà, bonne question, Arnold Zéphir. Vous êtes fondateur et développeur d'intelligence artificielle au sein de Prévision IO. J'imagine qu'il y a autant de réponses qu'il y a de questions là, dans ce que nous demande Antoine.
Mais il y a quand même un indicateur qui est important qui a été évoqué, c'est la qualité de la vidéo. En fait, même si le code source... Donc, il faut trois choses pour faire une deepfake. Il faut le code source, qui est largement accessible de nos jours, ou les outils plutôt. Il faut aussi les moyens. Donc les moyens, c'est des gros GPU, c'est vraiment des ordinateurs très puissants. Alors, comme vous le disiez, on peut avoir une petite vidéo de qualité réduite avec du matériel à 2000 euros chez soi, on va dire, et quelques jours. Par contre, si par exemple, il y a une deepfake qui sort, qui est en haute résolution et qui fait une ou deux heures, on peut se douter... C'est comme les cyberattaques, que les moyens derrière, ils ont nécessité soit une grosse entreprise, soit un État, effectivement. Quoi.
Ça, c'est déjà arrivé, des deepfakes diffusés par un groupe professionnel, ou en tout cas professionnalisé, dont on peut se dire qu'il est subventionné ou financé par un État ?
Par des groupes professionnalisés, il y a des choses qui sont passées. Après, il y a certains groupes qu'on pense toujours attachés à des États. Là, je pense... à certains groupes de hackers russes, mais il n'y a pas de preuve explicite qu'un État ait fait ça. Mais comme toutes les technos, il y a toujours les hackers s'emparent rapidement de ce genre de sujet pour commencer à tester le sujet.
Oui.
On ne peut pas affirmer avec certitude qu'il y a un État derrière. Par contre, le jour où ça sera nécessaire, les tests ont été faits, ils sauront où ils en sont. Quoi.
Jérôme Bilois, il y a un vrai risque quand même de faire trébucher nos démocraties. On parlait tout à l'heure de l'enjeu de la campagne présidentielle, par exemple en France, en 2022. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, ce n'était pas forcément des deepfakes, mais on a vu arriver quand même de fausses informations qui ont pu avoir quand même une incidence sur la primaire, notamment des démocrates, et qui ont pu quand même avoir une incidence sur l'état de l'opinion publique. Ça peut arriver, ça, en 2022 en France ?
Clairement, dans un contexte d'élection présidentielle, on est sur finalement une polarisation extrêmement forte et des camps qui s'opposent les uns aux autres et qui vont justement utiliser le moindre argument pour finalement faire caisse de résonance du message qu'ils veulent défendre eux. Et on sait, on l'a vu, qu'il y a des campagnes de désinformation qui peuvent venir d'États extérieurs. Et aujourd'hui, ces campagnes de désinformation... Elles sont basées sur des comptes, sur les réseaux sociaux qui vont relayer sans arrêt des news qui sont plutôt écrites, qui sont plutôt des images encore, souvent détournées. C'est vrai que l'étape d'après, c'est de passer à la vidéo. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut justement s'entraîner à savoir aussi détecter ce genre de choses.
Alors on va en parler dans quelques secondes, de savoir détecter ces vidéos, ces fake vidéos, deepfake vidéos. Et puis il y a aussi l'enjeu pour les particuliers, parce qu'on peut être sujet à du chantage, notamment avec des deepfakes. Ça peut considérer ça peut impacter évidemment le citoyen, les citoyens que nous sommes. Et puis aussi, vous me parliez tout à l'heure de l'impact des fraudes pour les entreprises. On va parler de tout ça juste après la pause. À tout de suite. La suite du débat du Club des Idées, on continue d'évoquer cette menace des deepfakes, ces vidéos truquées qui peuvent faire dire n'importe quoi à n'importe qui. On continue évidemment d'en parler avec nos invités. Jérôme Billois, expert en cybersécurité, notamment au cabinet Wavestone. C'est vrai que j'évoquais la menace pour les démocraties, pour les élections, le fait que les États regardent évidemment ça de près, et notamment les services de renseignement, mais ça peut aussi avoir une incidence pour nous, citoyens. Si voilà, demain on est sujet à un chantage, on peut se retrouver avec un corps d'acteur porno dans une scène voilà, qui peut nous mettre en porte-à-faux, et que tout ça soit diffusé ou menacé de diffuser à notre employeur, à notre épouse, à notre copine, à notre copain. C'est réalité, ça ?
C'est la réalité. Hein. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a une affaire qui nous vient des États-Unis où une mère de famille de 50 ans, pour promouvoir finalement sa fille dans l'équipe des Pom-Pom Girls, avait créé des deepfakes mettant les autres Pom-Pom Girls dans des situations, on va dire, scabreuses, ou en train de boire de l'alcool, de fumer des substances illicites, et les avait envoyées à l'entraîneur de l'équipe pour essayer de décrédibiliser les autres. Et voilà, on parle d'une mère de famille de 50 ans, oui. On ne parle pas d'un expert en technologie numérique. Alors après, elle a été, justement, heureusement, les différentes personnes ont dit « Ah ben non, c'est pas nous », elles ont été crues, il y a eu une enquête de la police, et c'est remonté jusqu'à cette mère de famille.
Ça pose question, ça, quand même, Gérald Holubovitch, spécialiste deepfake et auteur de ce blog Journalisme Design. Alors, vous teniez tout à l'heure, et vous avez raison de le faire, à nuancer l'impact pour nos démocraties. Mais là, quand même, pour la vie de tous les jours des concitoyens, on voit qu'il y a des chantages sur Internet, par exemple, aux sextos, aux photos intimes. Ça peut arriver aussi avec les deepfakes.
Oui, alors là, pour le coup, effectivement, il faut faire attention, en fait, déjà aux images qu'on met sur Internet. Effectivement, il peut y avoir une reprise de ces images. Une journaliste indienne, Rania Ayoub, a été victime notamment de ces pressions de la part de personnes suite à un papier qu'elle avait publié. D'autres journalistes, d'après l'association Witness.org, qui aux États-Unis auraient été victimes également de ce genre de choses. Et puis, on a ici et là, en Australie, en Europe de l'Est, en Corée, beaucoup de faits divers, notamment des réseaux qui se sont organisés autour de la vente de deepfakes pornographiques.
Bien. Yannis est toujours avec nous, vous êtes deepfaker et vous travaillez deepfaker, je ne connaissais pas le terme, on en apprend tous les jours, de Nicolas Canteloup, notre ami l'humoriste. C'est compliqué de créer une deepfake pour un anonyme, puisque vous expliquiez tout à l'heure qu'il fallait utiliser la vidéo des gens qu'on veut deepfaker. Alors si on est anonyme par définition, il n'y a pas beaucoup de vidéos disponibles, mais on arrive quand même à le faire.
Oui, on peut le faire, mais en fait, tout dépend de la qualité, encore une fois. C'est-à-dire, le commun des mortels peut faire des deepfakes de qualité variable, je dirais. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, pour réaliser des deepfakes de grande qualité, il y a une barrière qui est déjà, qui est hardware, je dirais. C'est-à-dire, il faut avoir vraiment des PC très puissants. Et il faut aussi avoir, à minima, des connaissances au niveau du vidéo editing, c'est-à-dire pour savoir faire du compositing vidéo, savoir faire en fait déjà des effets spéciaux dans les vidéos pour arriver à un effet vraiment réussi.
Bien. Question de Samir que je voudrais vous faire partager.
Je m'appelle Samir et j'ai 41 ans. Comment aider les internautes à distinguer le vrai du faux ? Dès qu'il y a une vidéo qui fait le buzz, qui est des plateformes, qui donne les moyens à l'internaute de vérifier la véracité de la vidéo.
Voilà, c'est une question qui nous a beaucoup été posée. Ludovic, par exemple, nous a posé à peu près la même chose.
Je m'appelle Ludovic et j'ai 62 ans. Je voudrais savoir si on peut éduquer suffisamment, apprendre aux gens à repérer les petits détails pour contrecarrer ça.
Voilà, propos rassemblés pour nous par Diane Berger. C'est une bonne question, ça, Arnold Zéphir. Comment fait-on pour repérer une deepfake ?
Alors, il y a le contexte, comme le précisait Jérôme, déjà, ça c'est du travail, même pour les fake news, regarder d'où vient. Et après, techniquement, il y a quand même 2-3 indices. Alors, il y en a un qui est flagrant et qui est assez facile. Il n'y a jamais de boucle d'oreille sur les deepfakes, parce que les IA n'y arrivent pas. Donc, d'éléments ou d'accessoires. Ouais. Donc, pour les hommes, ça arrive moins souvent, mais... Ouais. Donc ça peut être un petit détail.
J'ai lu qu'il fallait aussi regarder le reflet dans la rétine.
Ouais, alors ça, c'est intéressant parce que c'est une des premières sources pour les algorithmes de détection de deepfake.
Oui.
C'est qu'effectivement, les lumières ne collent pas. Donc la première lumière, c'est les reflets dans les rétines, souvent. Et après, il y a des subtilités, mais comme on le faisait avec les photos
truquées. Attendez, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Il faut utiliser un algorithme pour vérifier qu'une vidéo est un deepfake.
Non. Alors, les particuliers n'auront pas les moyens, mais typiquement, des sociétés comme nous,
ouais.
On ne vend pas de générateurs de deepfake. Il n'y a pas vraiment de marché pour ça parce que c'est encore un peu gris.
Oui.
Par contre, on commence déjà à proposer des solutions de détection de deepfakes par d'autres IA, en fait.
Oui.
Parce que, heureusement...
Ça veut dire que s'ils font un logiciel spécial, à l'œil nu, moi qui ne connais pas grand-chose, je vais avoir du mal à repérer une vraie d'une fausse vidéo.
Il y a souvent les deepfakes, c'est plus facile de faire des images de face. Donc si vous avez typiquement la vidéo de Barack Obama, il y a quelques indices qui permettent...
C'est pas très rassurant ce que vous me dites, Jérôme Millois.
Oui, alors sur les indices, il y a aussi le bout du nez, par exemple, qui va bouger des fois différemment à cause de la lumière ou les oreilles qui sont des fois problématiques.
Hyper attentif.
Oui, il faut être attentif. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans quelques années, nos téléphones, Facebook, les réseaux sociaux vont avoir des petits logiciels et vous allez avoir un indicateur en bas, rouge, orange, vert, entre guillemets, sur est-ce que cette vidéo, on peut lui faire confiance ou pas. Et on va assister un peu à une guerre des intelligences artificielles. Alors, j'emploie des grands mots là, mais où d'un côté, les deepfakers vont monter en puissance, et puis de l'autre côté, les détecteurs de deepfakes aussi.
Vont monter
et donc,
en puissance.
Il va y avoir une vraie course technologique et une course à la détection pour justement amener des solutions qui soient aussi utiles pour le grand public ou pour les entreprises, qu'elles puissent rapidement se dire oui, c'est vrai, non, c'est faux.
Et alors, vous savez qu'il y a des petits malins qui veulent utiliser l'utilisation des deepfakes, mais à l'inverse, Dieudonné, par exemple, le polémiste qui a déjà été condamné pour les propos que l'on sait et qui a à nouveau poursuivi pour des propos qu'il a tenus dans une vidéo, et ben il dit c'est pas moi, c'est une deepfake, donc c'est pas moi qui ai prononcé ces... Donc
c'est
là, on pourrait utiliser par exemple votre logiciel, Arnold Zephyr, devant le juge pour dire si, c'est pas une deepfake, c'est vraiment Dieudonné.
Non, mais c'est vrai que c'est un aspect dont on parle moins pour le coup parce que c'est moins spectaculaire, mais la course à l'armement en matière d'IA, elle a déjà commencé en fait. Parce que le meilleur moyen de détecter des vidéos générées par IA, c'est d'avoir une autre IA qui s'entraîne. On ne va pas rentrer dans la technique, mais on est déjà en train de préparer les outils. Donc, a priori, comme le disait Jérôme, sans doute que les gouvernements, les tribunaux, les particuliers dans leurs applis mobiles vont disposer d'outils de détection qui, au début, vont être pas complètement performants. Et puis, petit à petit, la course va s'établir.
C'est une bonne question, ça, que j'ai posée à Gérald Olibovitch, spécialiste deepfake. Est-ce que la France est à la traîne? Je vous pose la question parce que, vous savez, il y a eu ces faits divers suite aux diverses attaques d'entreprises et de services publics dont on a parlé par des hackers. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, ça rejoint le même univers. Et le président de la République a déclaré en Conseil des ministres « On mène une guerre numérique avec les moyens de l'ORTF ». Est-ce que c'est le cas?
Alors, je pense qu'au niveau législatif, il y a déjà tout un arsenal qui permet de contrecarrer l'activité d'un certain nombre de hackers. La vraie difficulté, c'est de retrouver les auteurs, et ça, c'est vrai dans tout type de contenu comme ça qui se diffuse sur Internet. Est-ce qu'on est vraiment à la traîne? Je pense pas. On a des laboratoires qui travaillent sérieusement sur le sujet, qui, par exemple, j'ai pu discuter à l'occasion d'une interview de travaux. Il y a l'INRIA notamment, et donc du coup on est plutôt bien. Il y a moins d'entités privées qui font le buzz, mais elles sont là et elles travaillent.
Bon, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Jérôme Billois? On n'est pas trop à la traîne pour l'instant, ce sera le mot de la fin sur cette lutte contre les deepfakes, enfin je veux dire nos gouvernants, évidemment.
Alors la lutte contre les deepfakes et plus largement la sécurité dans l'espace numérique, en fait on voit que tous les pays sont en difficulté. On voit la litanie des attaques cyber qui ont lieu. La France et en particulier notre président a annoncé quand même là, un plan d'investissement de l'ordre d'1,3 milliard.
Oui, 1 milliard.
Voilà.
Oui.
Et dans ce milliard, il y a surtout 500 millions qui sont destinés à booster justement nos entreprises pour qu'elles créent les solutions de demain qui vont permettre qu'on soit mieux protégé et qu'on soit aussi un acteur économique à grande échelle. Donc ça, c'est extrêmement positif, ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut aussi renforcer effectivement le côté police-justice pour aller chercher ceux qui sont à l'origine de ces fraudes.
Bon, ce que je retiens aussi, c'est que si demain on est pris la main dans le sac avec une vidéo pas forcément flatteuse, on peut dire c'est pas moi, c'est un deepfake. Voilà, c'est la conclusion de ce débat. Merci à tous les trois, merci à nos invités, merci à Yanis d'avoir partagé ses arguments et ses éléments de compréhension avec nous dans le Club des idées.
Europe 1, Julien Bugier.